chers amis, bienvenue pour cette seconde partie de Restons Courtois, évidemment qui s'ouvre sur un résultat désolant puisque Ludovine de la Rochère vient de donner les résultats du vote. Il s'est allé à toute allure, donc ça y est, les députés français ont voté en troisième lecture la loi sur l'euthanasie qu'ils appellent autrement, mais qui va permettre de tuer des gens.
Exactement. Alors, il y a eu 299 voix favorables à l'aide à mourir, c'est-à-dire euthanasie suicide assistée, hein, pour employer les vrais termes. Il y a eu 226 voix contre et encore 37 abstentions quand même et 10 non-votants. Cela veut dire que ça s'est un petit peu amélioré. Il y en a 4 de moins pour, 4 de plus contre, qui ne sont pas forcément les mêmes. Ils ont pu passer du contre à l'abstention ou de l'abstention à contre. Bref. Donc en fait, c'est quand même passé à 63 voix près, ce qui reste très important. Et malheureusement, alors monsieur le sénateur en dira plus, mais malheureusement, j'allais dire, c'est à peu près plié.
C'est à peu près plié parce que effectivement, c'était la troisième lecture. Ludovine de la Rochère, vous êtes présidente du syndicat de la famille. On reviendra sur le combat qui a été celui de votre syndicat contre cette loi. Elisabeth de Courrèges, merci d'être avec nous. Vous êtes soignante, enfin je ne sais pas le terme exact, à la maison Jeanne Garnier dans l'unité Alzheimer, mais vous avez été pendant longtemps dans l'unité des soins palliatifs. Et monsieur le sénateur Paul Huppert, Alain Huppert. Vous êtes sénateur républicain, enfin du groupe Les Républicains, vous faisiez évidemment partie de ceux qui considéraient que cette loi n'avait pas lieu d'être. La loi qui vient d'être votée en troisième lecture à la Chambre passe demain, si je ne m'abuse, au Sénat. Elle va poursuivre un parcours législatif, mais qui est presque symbolique. Je gage que les sénateurs qui ont retoqué à deux reprises la loi vont la retoquer une troisième fois.
Jamais 203, dit-on à la campagne. Donc le Sénat va s'opposer pour la troisième fois. Donc il y a une crise démocratique entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et M. Lecornu avait prôné un consensus d'améliorer les choses, et on s'aperçoit qu'on a une loi qui est complètement devenue radicale, qui illustre le progressisme d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, souvenez-vous, les Gilets jaunes, il y a eu un grand débat national. Qu'est-ce qui est sorti du grand débat national? C'était la loi climat et résilience. On a créé les ZFE, c'est-à-dire les pauvres, vous ne rentrez plus dans les villes, vous ne rentrez plus sur les ronds-points. Donc on est devant une loi qui est complètement hystérique. Et moi, j'aimerais que nous soyons tous des adultes plutôt que des gamins hystériques dans un bac à sable qui disent non, ça sera ma loi, ça sera mon avis. Et vous souvenez de la phrase du grand philosophe Aristote qui disait que l'idiot n'a que des certitudes et le sage doute. Donc, l'impression qu'on a quand même eu aujourd'hui combien d'idiots utiles ?
299, plus les 37 abstentionnistes.
Donc, ça évolue doucement. Donc,
Il y avait plus de parlementaires qui étaient pour cette loi avant d'en débattre véritablement.
Mais ça évolue de plus en plus. Il y a quand même une fracture dans la société, de plus en plus de gens, parce que les gens n'étaient pas informés. Ils n'étaient pas informés, on leur a dit de la loi sur la fin de vie, mais en fin de compte, c'est une loi sur l'euthanasie, parce que toutes les digues, toutes les vannes, tout a été supprimé.
C'est effectivement quelque chose de stupéfiant de voir les amendements qui ont été supprimés. Grégoire Pupin, que vous dirigez le CLJ, donc un centre d'études juridiques, entre autres, au niveau européen. Comment cette loi française s'inscrit-elle par rapport à l'ensemble des lois sur la fin de vie, sur l'euthanasie, sur le suicide assisté, telles qu'elles ont été votées ou au contraire rejetées, puisque par exemple le Parlement écossais a décidé de ne pas la voter?
Oui, bonjour à tous. Bonjour aussi à Ludivine.
Écoutez, bonjour Grégoire.
Cette loi, ce que je peux vous dire, c'est une minorité de pays. Il y a quelques pays occidentaux qui ont adopté ce genre de texte. Et encore, ce n'est pas tous les mêmes. En Suisse, ce qui est permis seulement, c'est l'assistance au suicide non médicale. Ça veut dire que ce sont des associations privées qui font cela. Ce n'est pas dans le cadre médical, ce n'est pas hospitalier, c'est un peu louche parfois hein, dans des maisons. Voilà, donc, parce qu'on estime que ce n'est pas un soin aux Pays-Bas non plus. On dit que ce n'est pas un droit. Voilà, en Nouvelle-Zélande non plus. Les pays les plus radicaux, c'est la Belgique et le Canada et la France. Et pour vous dire la vérité, je ne pense pas que ces pays soient vraiment les pays qui soient les plus en forme au plan culturel et social. Quand on voit l'état de la Belgique, l'état de déliquescence de ce pays, quand on voit la crise culturelle et l'état du Canada, en fait, les pays qui ont la plus grande crise culturelle, les pays qui ont été le plus rapidement sécularisés, sont les pays qui sont allés le plus loin dans l'euthanasie et finalement dans leur propre suicide. Donc je pense, moi, que ce texte reflète une génération que nous connaissons, athée et matérialiste, qui est représentée par la majorité des députés et qui organise, en fait, les conditions de sa propre mort à son image. Ça veut dire de façon absurde et sans souffrance.
Enfin, et au Donc, contraire, avec...
avec d'organiser leur mort.
Et Elisabeth de Courrèges, vous étiez venue dans cette émission il y a quelques semaines et vous nous aviez fait part d'un étonnement qui était le vôtre, c'est de voir défiler les parlementaires à la maison Jeanne Garnier, y compris certains parlementaires qui avaient leurs propres parents, parents, tantes, enfin bref, des gens de leur famille, et qui à chaque fois étaient admiratifs du travail que les équipes de soins palliatifs réalisaient et qui néanmoins sortaient en expliquant qu'il fallait absolument voter cette loi.
Oui. Avant tout, en fait, je venais aussi partager un peu ma consternation. Sur le trajet en arrivant, j'avais le ventre noué. Je suis profondément attristée et en colère par rapport à ce qui vient de se passer, par rapport à cette société où face à la souffrance, on répond plus par l'amour, mais par la mort, où on n'est plus à vivre, mais à mourir, et où on a pourtant d'autres réponses que nous connaissons, que nous maîtrisons. Et ce soir, ces personnes en fin de vie, mais pas que, ces personnes handicapées, ces personnes avec des maladies incurables, ce qui est quand même un panel assez large ce soir, nous les abandonnons, nous leur signifions que leur vie pourrait valoir la vie comme la mort. Et ça m'attriste beaucoup, ça m'attriste pour toutes ces mains que je sers au quotidien, que nous serrons au quotidien, nos soignants, et qui demain seront peut-être inertes, faute d'avoir su qu'elles pouvaient être soulagées, aimées, accompagnées jusqu'au bout. Je pense à une dame que j'ai quittée vendredi, qui était passée de l'unité Alzheimer aux soins palliatifs parce qu'elle était devenue très malade. Et je me dis, finalement, cette dame, elle a été accompagnée jusqu'au bout, et ça nous a laissé le temps aussi de partager des moments extrêmement forts avec ses proches. Vendredi après-midi, je suis passée dans la chambre leur donner toutes les œuvres que cette dame avait fait. Elle avait fait des tableaux en fleurs séchées, des œuvres colorées, leur donner des photos. Et tous ces moments étaient hyper importants au chevet de cette dame. Tous ces moments avaient du sens. Je ne réponds pas beaucoup à votre question, mais vraiment, c'est ce qui m'habite ce soir, à ce moment aussi grave. Cette profonde tristesse. Et cet écœurement face à cet abandon, ce rejet, et puis cette perte un peu de compétences, de créativité vers laquelle on va. Les soins palliatifs, c'était quand même un fleuron français. Tous les députés sont venus, en effet, nous le dire à Jeanne Garnier. Et à sitôt arrivé sur le perron de la maison, on disait aux journalistes, mais il faut que ça change. On se sent ce soir profondément abandonné, patient comme soignant.
Effectivement, les patients maintenant ont quasiment le sentiment que la représentation nationale a décidé qu'une vie diminuée à leurs yeux, n'était pas intéressante. Il y a une espèce de validisme incroyable et jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, on a tous vu passer ces amendements où on disait qu'une personne sous tutelle ou sous curatelle n'était pas forcément capable de réclamer la mort. Eh bien si, amendement rejeté, et avec d'ailleurs une espèce de triomphalisme de la part de ceux donc la DMD notamment, qui œuvre depuis 40 ans pour que cette loi passe, qui nous ont expliqué qu'il fallait que toutes les digues sautent et que la moindre restriction était insupportable. Et donc, par exemple, c'est vous qui me l'avez indiqué ce matin, Ludovine, cette espèce d'infâme, on est assez peu dans la maîtrise de l'antenne, mais quand même, Philippe Loéac de la DMD, qui, alors qu'une religieuse disait, voilà, s'il vous plaît, faites en sorte que les établissements qui ne veulent pas donner de la mort ne soient pas obligés de la donner. Et donc Philippe Loéac dit, si, en fait, même les petites sœurs des pauvres, même des religieuses catholiques, devront donner la mort parce qu'elles sont payées avec les sous de l'État, exactement comme la DMD d'ailleurs, qui fait partie de ces associations à la limite de la légalité. Il y a une grande enquête entre Radio Courtoisie, L'Incorrect et les autres, justement, sur les conditions de financement de la DMD. Eh bien, et vraiment, ces gens veulent que tout le monde meure et surtout veulent que tout le monde donne la mort et veulent que personne ne puisse ne pas conseiller de mourir.
Votre propos retrouve exactement, enfin, rejoint exactement les arguments très fallacieux qui ont été avancés aujourd'hui. C'est-à-dire que, juste avant le vote, comme toujours, qui était le vote final de cette troisième lecture, qu'on appelle nouvelle lecture, mais peu importe, il y a d'abord les explications de vote par groupe. Et les arguments qui étaient avancés étaient tout simplement plus stupéfiants les uns que les autres. Alors d'abord, dans leur esprit, c'est un droit. Et ils n'ont pas parlé de choisir sa mort parce qu'en fait, évidemment, derrière cette proposition de loi, il y a un arrière-plan philosophique, idéologique extrêmement fort. Et tellement fort que visiblement, très clairement, un certain nombre de députés n'ont même pas lu la proposition de loi. Et donc, ils avançaient des arguments très fallacieux. Et pour ce qui est de choisir sa mort, personne ne la choisira. Et personne ne peut choisir, d'ailleurs. D'abord parce que la mort, même avec l'euthanasie et le suicide assisté, reste une inconnue, un mystère, quand, comment, etc. Nous n'en savons rien. Et il vaut bien mieux pour vivre ne pas le savoir, d'ailleurs. Et de toute façon, si tant est que certains choisissent, entre guillemets, leur mort à un moment donné, ça veut dire qu'ils imposent à l'autre un geste irrémédiable, définitif, traumatisant, et qu'ils porteront toute leur vie. Ils imposent à l'autre d'aider à se suicider ou d'euthanasier. Et puis, un très grand nombre de Français n'auront pas le choix parce qu'il n'y aura pas de soins palliatifs, parce qu'il n'y a pas de soins palliatifs là où ils habitent aujourd'hui. Et avec l'euthanasie et le suicide assisté, la vérité, c'est qu'il y en aura de moins en moins. Alors peut-être pas tout de suite, mais inéluctablement, il y en aura moins. Le coût des soins palliatifs est un coût humain, non pas technique lourd, mais humain, puisque c'est du temps, de l'accompagnement, etc. Et nous savons où en est le contexte français en termes d'état de la santé et d'état des finances. Mais pour revenir à leurs arguments et donc à tous ces amendements qui ont été systématiquement refusés, il a été demandé davantage de collégialité refusée. Et un seul médecin sera le décideur pour chaque personne. Il y a eu la demande de clause de conscience pour les établissements qui l'auraient souhaité, notamment tous les établissements religieux, catholiques en particulier, mais pas seulement. Ça a été refusé. Or là, il y avait une députée, Madame Lebon, qui prétendait que la clause de conscience de chacun serait respectée. C'est pas le cas. Ceux qui travaillent à Jeanne Garnier, ceux qui travaillent chez les Petites Sœurs des Pauvres et autres n'auront pas le choix. Du moins, leur directeur ou directrice ou supérieur devra organiser la possibilité dans leur établissement, ou devrait, je pense et j'espère qu'un certain nombre ne le feront pas, organiser la possibilité de faire mourir. Il a été demandé que les personnes déficientes intellectuelles ou sous tutelle ou curatelle ne puissent pas demander à être euthanasiées. Elles ne peuvent pas signer un chèque, comme il a été rappelé, mais elles pourraient demander à être euthanasiées. Ça a été refusé, donc elles le pourront. Il a été demandé qu'il y ait davantage de délais de réflexion. Le délai de réflexion, une fois que la demande est accordée, serait de 2 à 14 jours. C'est beaucoup, beaucoup plus court que dans n'importe quel autre pays du monde.
Même plus court que pour acheter un canapé, en fait.
Absolument, c'est plus court que les délais de rétractation, enfin, ou c'est l'équivalent de... C'est même beaucoup plus court que les délais de rétractation, par exemple, pour un prêt immobilier, puisque 2 jours seulement, c'est possible. Et c'est complètement faire fi du fait que, dans la souffrance, il peut y avoir, et même dans des situations pour d'autres raisons de découragement, de difficultés immenses, et notamment de souffrance, il y a des moments de désespoir. Des moments de cris de désespoir, je veux en finir, je veux mourir. Mais justement, c'est un appel à l'aide. Et d'ailleurs, on sait très bien que beaucoup de tentatives de suicide, par exemple, sont des appels à l'aide. Et donc, même celui qui demandera à être aidé à mourir, comme ils disent, c'est en soi, de toute façon, un appel à l'aide. Et puis, ils ont.
Mais
donc...
sauf que c'est un appel à l'aide qui, maintenant, ne devra être entendu, puisqu'on n'a pas le droit de suggérer, si quelqu'un demande le suicide assisté, donc si quelqu'un demande à être euthanasié, il y a un délai de. Comment ça s'appelle
d'entrave à l'euthanasie. Il y avait un délit d'entrave qu'ils ont supprimé parce qu'ils avaient peur que ça empêche, en fait, ils avaient peur que ça fasse basculer des indécis dans les votes contre. Donc, à ce jour, il n'y a plus de délit d'entrave. La vérité, c'est qu'en fait, on peut retrouver ailleurs dans le droit, et ça a été dit, des possibilités de poursuivre quelqu'un qui s'opposerait à la volonté d'un tel ou un tel, enfin d'un patient. Et quant au délit d'incitation, ça, c'est extrêmement important. C'est le plus. Parce que, au pire, on entraverait, j'emploie leur terme, quelqu'un qui voudrait demander à mourir, hein, il vivrait et il serait soulagé de sa souffrance. D'ailleurs, quitte à aller jusqu'à la sédation profonde et continue, autorisée depuis 2016, la loi Claeys-Leonetti. Mais à l'inverse, le délit d'incitation, pousser quelqu'un à y aller, parce qu'évidemment, c'est ce qui va se passer. Y compris dans des familles fracturées ou divisées, où malheureusement il peut y avoir des personnes intéressées, mais c'est ce qui se passera dans l'atmosphère générale de la société, eh bien ce délit d'incitation a également été sorti du texte. Et quand il y a eu un amendement pour le remettre, il a été refusé. Or, si on incite, si on y pousse, au final il y a une personne qui meurt, dont on a provoqué la mort, mais là il a été refusé aussi. Et donc, tous les amendements de raison, de bon sens, et il y en a encore d'autres à citer, ont été systématiquement refusés. Il faut savoir que la nouvelle lecture, il y a eu 2000 amendements déposés, il n'y en a que 6 qui ont été adoptés. C'est absolument dérisoire. Je ne sais pas d'ailleurs si ce n'est pas du jamais vu en termes de lecture et d'examen d'un texte.
Monsieur Huppert.
Vous avez raison, c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a un fossé maintenant entre... la rive gauche et la rive droite, hein, entre l'Assemblée nationale et la Chambre haute. Et c'est faire fi complètement de cette noble chambre qui est le Sénat. Et vous avez parlé de la clause de conscience. Ces mêmes progressistes qui, il y a quelques jours, invoquent la clause de conscience pour des écrivains en désaccord avec leur éditeur et qui la dénient à des soignants.
Et aux pharmaciens. Les pharmaciens n'ont pas du tout de clause de conscience dans ce contexte.
Donc, est-ce que c'est... Ça s'appelle faire société ? Non.
Et surtout, est-ce que c'est consensuel ? Pas du tout. C'est-à-dire, la co-construction façon le cornu, en fait, consiste à passer en force et avec une brutalité insensée.
C'est une loi violente.
D'un point de vue purement légal, donc demain, vraisemblablement, les sénateurs iront dans le droit fil de ce qu'ils ont déjà posé comme acte. Et donc, le texte reviendra une ultime fois à la Chambre pour être solennellement voté ou accepté le 15 juillet, comme ainsi que le gouvernement...
L'article 45 de la Constitution dit que c'est au... Quand il n'y a pas d'accord, c'est au gouvernement de demander ou de ne pas demander, de s'abstenir, de demander à l'Assemblée nationale de trancher. Donc maintenant, la responsabilité, elle est dans les bras de M. Lecornu.
Mais il a déjà, c'est déjà inscrit à l'agenda de l'Assemblée nationale. C'est tout le problème. C'est que M. Lecornu, dont on a souvent dit qu'il était opposé...
Il peut encore s'opposer.
Il peut encore peut-être faire retirer de l'agenda, mais il a quand même, en tout cas malgré sa position, ou en tout cas ce qu'on dit de sa position, il a quand même, parce qu'en effet c'est lui, convoqué la commission mixte paritaire, puis validé la reprise de la navette parlementaire, parce que ça pouvait s'arrêter là, avec inscription à l'agenda de l'Assemblée nationale, puis du Sénat en commission des affaires sociales, c'était aujourd'hui, et à partir du 6 juillet en séance publique, dans l'hémicycle. Et c'est déjà... tout à fait officiellement, à l'agenda de l'Assemblée nationale, pour la toute dernière lecture, celle où l'Assemblée nationale a le dernier mot.
Il a le pouvoir d'arrêter.
Il peut encore arrêter.
Donc c'est lui qui sera responsable. Donc on pourra dire, il a la possibilité d'euthanasier cette loi, ou de laisser l'Assemblée nationale aller dans ce délire, parce que faire fi de ce qui se passe en France. Il y a eu des manifestations contre, qui étaient très importantes à Paris. Personne n'en a parlé. Il y a des manifestations importantes des marches blanches sur le meurtre de la jeune fille.
Liana.
Justement, si on a besoin de quelque chose, c'est une loi sur les agressions sexuelles. Hein. Ça, c'est une urgence. L'urgence, ce n'est pas de faire cette loi sur l'euthanasie. Et là, on est dans un dévoiement complètement complet de la démocratie, parce que cette loi, elle devait être, après la dissolution, laissée de côté. Vous vous souvenez de M. Bayrou qui freinait des deux fers. Elle devait être repoussée au calende grec. Et après le 25 décembre 2025, lors des vœux du président de la République, qui a voulu faire de 2026 une loi utile, avec une loi de fraternité qui sera cette loi, c'est complètement macabre.
Et sans compter aussi l'autre actualité dont on parle beaucoup, enfin, c'est un grand sujet de préoccupation, c'est la santé mentale des jeunes. Là, on arrive dans un contexte où on va complètement à l'encontre de tout ce qu'on fait. On s'inquiète, on s'alerte du nombre de suicides des jeunes en difficulté psychique, en souffrance psychologique. Et là, on leur déroule le tapis rouge vers cette finalité tragique. C'est extrêmement paradoxal. Et je pense que... J'entendais un député, là, juste avant le vote, un des derniers qui s'est exprimé juste avant le vote, qui se glorifiait en fait de « oui, ce sera une loi sur le suicide, oui, on est dans cette idée-là ». Et je ne sais pas si les gens ont bien conscience que là, vous le disiez, hein, c'est tout notre rapport au suicide qui va changer. Hier encore, quand je tapais sur Google « suicide assisté », il y avait le numéro de SOS Amitié qui est apparu en grand. Je ne sais pas ce qui va en être demain. Si vous voyez, c'est tout aussi notre politique du rapport au suicide qui est en train d'être profondément ébranlée.
Grégoire Pupin, qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans la loi telle qu'elle a été votée ?
Ce qui m'a le plus étonné, en fait, c'est un peu ce qui a été dit, ça veut dire la fascination des députés ou de certains sénateurs pour la mort, pour le pouvoir de légiférer sur la décision de mourir, sur cette forme de prétendue liberté qu'on s'octroie. Et donc, c'est cette fascination et ivresse du législateur qui, en fait, pour ce genre de texte, a toujours agi avec cette ivresse. Les promoteurs de l'euthanasie ont toujours été ivres de leur propre puissance ou de l'illusion de leur puissance, de leur fausse conception de l'homme, avec cette fausse dignité. Et c'est cette ivresse qui a aveuglé les parlementaires, leur faisant croire qu'ils portaient un texte dans la grande tradition républicaine, et qui, en fait, on est comme mené par des aveugles, en fait. C'est un texte qui pousse la France encore plus loin dans sa propre décadence. C'est un texte où on ajoute encore des clous au cercueil de la France. En fait, ces gens-là sont vraiment l'image d'une génération vieillissante qui n'a cru en rien et qui, là, se dit on peut encore faire quelque chose pour au moins maîtriser quelque chose, maîtriser notre mort, que notre vie ne soit pas totalement absurde, que notre mort ne soit pas totalement absurde, qu'en même temps que l'on ait l'impression de gérer la société, d'organiser la société, de la conception à la mort. Et donc c'est cette espèce d'aveuglement idéologique, mais vraiment par la fascination de la mort. Et c'est ça qui m'étonne le plus, c'est que tous les arguments rationnels qui ont été développés sur la protection des personnes protégées, le délai, ils ont été totalement insensibles. Parce qu'en fait, ce qu'ils aiment, et ça a toujours été comme ça, ils aiment la mort. C'est les promoteurs de l'euthanasie, toujours ont aimé le pouvoir de la mort. Ici, eux-mêmes, d'ailleurs, se la sont donnée. Les fondateurs de l'ADMD sont presque tous morts suicidés. Ils glorifient le suicide. Ils disaient, se suicider, c'est la seule façon de mourir vivant.
J'ai accompagné un membre d'honneur de l'ADMD qui a changé d'avis dans la clinique où j'étais.
C'est ça. Donc, il glorifie dans leurs écrits.
Il était arrivé avec sur son papier, excusez-moi, il est arrivé avec sur son papier sa demande explicite de mourir, qu'on ne pouvait pas faire parce que ce n'était pas légal. Et donc, nous, on l'a aidé à vivre ce qui lui restait à vivre. Et il a changé d'avis et il nous a dit qu'il ne voulait plus mourir. Je vous laisse continuer.
C'est très bien. Mais les fondateurs de l'ADMD sont comme les promoteurs de l'euthanasie avant, dans les années 20, les années 30, les années 50. il y a cette ivresse de la puissance qui est en même temps un rejet fondamental de Dieu en disant nous allons cracher au ciel jusqu'à notre mort, c'est nous qui déciderons. Et en même temps, l'idée très sanitaire d'avoir une société propre. Si l'homme est à l'image de ce que l'on veut qu'il soit, ça veut dire beau, intelligent, en bonne santé, eh bien, avec une conception matérialiste de la nature humaine, eh bien, il faut aussi, comme disaient pas mal de génistes, hein, que nous fassions le ménage dans notre jardin, dans notre société, et donc que nous ayons une gestion rationnelle de la vie. Si la vie est absurde, il est évidemment totalement absurde d'entretenir des personnes dans les hôpitaux pendant les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années de leur vie, s'ils veulent en finir. Donc c'est le symptôme du désespoir matérialiste dans lequel nous vivons. C'est le symptôme de la mort de notre peuple au plan moral. L'incapacité, j'ai écouté les débats parlementaires. La pauvreté des discours, la pauvreté, la misère intellectuelle de ces gens-là, qui ne voient pas où ils conduisent la France. Et en même temps, en France, il y a d'autres populations, d'autres personnes qui survivront à cette politique. Donc, on peut parler de l'avenir de la France. En agissant ainsi, nous accélérons notre déclin et nous accélérons notre propre remplacement.
Merci Grégoire. Ludovine de la Rochère, j'aimerais qu'on revienne sur la manière dont, comme le disait le sénateur Alain Houpert, les Français ont été mal informés, dont, vous le disiez vous-même, les parlementaires ont été mal informés, dont, en fait, le gouvernement, à travers la Convention citoyenne, etc., a véritablement organisé une parole unique au profit des euthanasistes et contre ceux qui voulaient défendre la vie.
Le gouvernement, enfin, on peut dire nos
l'État,
dirigeants.
L'État, Emmanuel
court.
Macron, Sébastien Lecornu, Yaël Braun-Pivet.
Et puis les médias, et puis j'allais dire aussi les médias mainstream. Alain Huppert faisait remarquer que. Alors en fait, il y a eu une manif, parce que tout le déroulé des débats, depuis plusieurs années, ce sont les médecins, les professionnels, les soignants, qui, dans l'espace public, ont exprimé leur position, parce que comme professionnels, c'est eux qui avaient le plus de chances d'être entendus. Et d'ailleurs, c'est un autre aspect de ces débats, c'est que les professionnels, ceux qu'on applaudissait tous les jours pendant le Covid, eh bien, sont piétinés. Ils se sont exprimés massivement, ils se sont exprimés à de nombreuses reprises, et ça, c'est un autre aspect particulièrement choquant. Pardon, quelle était votre question, Richard?
La manière dont, en fait, on a plus ou moins organisé le fait qu'il y ait
oui,
une parole
pardon.
Dominante.
Pardon, Richard.
Très content de m'être rappelé ma propre question.
On a effectivement organisé, comme toujours, tout un processus extrêmement bien pensé. Ça a été annoncé par Emmanuel Macron. Ça permet de dire après, je l'avais annoncé, donc les Français savaient quand ils m'ont élu. Ça, c'est une méthode qu'on connaît bien. Deuxièmement, avis du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique, enfin en principe d'éthique, qui bien sûr, en fait à la demande d'Emmanuel Macron, hein, parce que tous les membres sont nommés par les ministères et le président par Emmanuel Macron. Et gentiment, Jean-François Delfraissy, c'est son troisième mandat. Passons. Le CCNE
Jean-François
a
Delfraissy
donc...
qui considérait que la manière dont en Chine les condamnés à mort ont le droit de donner leurs organes était une bonne idée qu'on devrait étudier sérieusement.
Il n'a
donc
aucune
voilà,
limite.
Voilà l'éthique de Delfraissy.
Il n'a absolument aucune limite. Il a un calme apparent, un air très bonhomme, mais en vérité, il n'a absolument aucune limite, ce qui est stupéfiant pour un président d'un comité d'éthique. Donc le CCNE a rendu un avis favorable. Puis, il y a eu la Convention citoyenne, dont une partie des membres ont eux-mêmes dit qu'en fait, on les avait complètement manipulés. Membres auxquels on n'a pas proposé de manière systématique d'aller découvrir ce que sont les soins palliatifs. Et au final, peu importe les fractures et les divisions au sein de la Convention, on a déclaré et prétendu haut et fort que tout le monde y était favorable, la Convention y était favorable, ça a été cité encore aujourd'hui. Ensuite, pour ce qui est des débats, donc Emmanuel Macron avait dit en effet qu'il fallait co-construire. À l'évidence, il n'y a pas de co-construction. Personne n'est d'accord, mais c'est pas grave. Il répète comme un mantra tous ses arguments, tout se déroulait. Et alors là, aujourd'hui, pas un mot pour les soignants, si ce n'est pour dire il y aura une clause de conscience pour chacun, mais sans même être plus précis, parce qu'il n'y en a pas pour les pharmaciens, il n'y en a pas pour les étudiants en médecine, il n'y en a pas, ce qui est très important. Donc c'est uniquement les infirmières et les médecins qui ont qui ne... Mais pas, donc, je l'ai dit, pour les institutions. Et puis, le grand mantra, c'est la souffrance. On va lutter contre la souffrance, lutter contre la souffrance. Dans notre pays, à notre époque, nous avons la chance immense de bénéficier des soins palliatifs. C'est un progrès extraordinaire. Ça, c'est un progrès, un vrai. Et ils ont sans cesse fait comme si ça ne pouvait pas tout résoudre. Oui, certes, ça ne résout pas absolument tout, mais ça résout une très, 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 très grande partie des souffrances. Et autrement, il y a la sédation. Ce qui est intéressant, c'est que ce débat a fait découvrir aux Français l'existence des soins palliatifs. Et plus on a avancé, moins la proportion de Français favorables a été importante, parce qu'il y a un autre aspect, bien sûr, c'est les sondages. Les prétendus sondages de la DMD, 90% des Français sont d'accord, répétés en boucle. En vérité, la proportion de Français, quand on pose correctement la question, la proportion est encore à majorité, mais cette majorité a largement baissé. Et d'autre part, il y a donc aussi cette possibilité de la sédation profonde que les Français ne connaissaient pas non plus. Et je pense à un certain nombre de parlementaires, puisque un certain nombre quand même ont changé d'avis entre entre l'examen du projet de loi avant la dissolution, puis la première, deuxième et troisième lecture de la proposition de loi actuelle. Et donc il y a quand même eu une baisse constante du nombre de parlementaires favorables. En dépit de ce storytelling, en dépit de ces arguments fallacieux...
En dépit de la pression progressiste, où il faut absolument être du côté justement de ce qui est présenté comme toujours, une avancée sociétale.
Comme toujours, il faut être du bon côté... Et donc on assène avec une espèce de certitude systématique, mais les arguments, pour ceux qui suivent de très près là, les uns et les autres, on pourrait vous les lister. C'est, comme vous le disiez, monsieur le sénateur, c'est très très pauvre. Il y a une petite dizaine d'arguments. Alors la souffrance, le choix, d'ailleurs à propos du choix de la fin de vie, pour eux, il y a une correspondance complète avec l'avortement. Et ils n'ont pas cessé de le répéter. Il faut choisir la vie au départ, ou ne pas la choisir. Et il faut choisir sa mort à la fin. Et donc, et en effet, il y a aussi tout l'aspect eugéniste, en vérité, qui n'est bien entendu jamais mentionné. Mais en tout cas, pour eux, le parallèle, et c'est pour ça qu'un certain nombre y tenaient de manière... extrême, je veux dire, sans même avoir réfléchi, sans même être ouvert à la réflexion. Et encore une fois, je pense que certains n'ont pas lu la proposition de loi. Et donc, ce parallèle avec l'avortement a bloqué un certain nombre qui sont obsédés par le droit à l'avortement et du coup maintenant, obsédés par le droit à l'euthanasie. C'est la fameuse autonomisation de l'individu, etc.
Grégoire Pupinck.
Oui, juste une remarque sur la clause de conscience. Un élément important. Premièrement, les établissements, donc ça a été dit, sont privés de leur liberté. C'est une liberté qui est garantie, qui existe en droit international, en droit de l'homme. C'est la dimension associative de la liberté religieuse. Ça garantit aux établissements, par exemple, confessionnels, aux écoles juives, par exemple, de fonctionner dans le respect de la loi juive. Donc c'est totalement un élément juridique qui existe et qui a été ignoré par les parlementaires. Ça s'appelle le principe d'autonomie. Donc là, c'est essentiel. L'absence de respect de cette clause, de ce principe d'autonomie des établissements confessionnels fait que nous n'aurons plus aucun lieu en sécurité. Nous ne saurons pas où placer nos proches. Nous ne saurons pas où même nous-mêmes aller. Il n'y aura plus de lieu sûr, premièrement. Et c'est très grave. C'est très grave. On ne sera en sécurité nulle part. Deuxièmement, certes, les médecins et les infirmières ont une clause de conscience, mais elle est limitée. Elle est très limitée. Parce que oui, on leur concède la faculté de refuser de pratiquer eux-mêmes l'acte, mais ils ont l'obligation d'indiquer quelqu'un d'autre qui va le faire. Quelqu'un d'autre qui accepte de le faire. Ça veut dire, c'est comme si vous disiez « Non, moi, je ne vais pas te tuer, mais par contre, va chez un tel, lui, il le fera ». Vous êtes totalement complice. Totalement complice. Donc c'est une fausse clause de conscience. Parce qu'en fait, le médecin ou l'infirmière est quand même complètement moralement engagé par l'obligation de désigner l'un de ses confrères. En plus, c'est assez absurde parce que comment voulez-vous préjuger de l'avis futur de votre confrère s'agissant d'une demande précise d'euthanasie ? Donc en fait... Tout est fait pour porter atteinte le plus possible à la liberté de conscience, pour empêcher la conscience humaine qui naturellement se révolte contre le fait de tuer pour empêcher la conscience humaine de s'exprimer. Et si on veut forcer les établissements confessionnels à pratiquer l'euthanasie, c'est aussi pour blesser intimement leur conscience.
Monsieur le sénateur, dans les débats que vous avez eus au Sénat, le consensus est arrivé assez vite. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans cette proposition? Est-ce que c'était la manière dont cette loi était annoncée comme un triomphe assuré? Est-ce que cette espèce de viol des consciences permanent ou le fait d'être contre l'euthanasie était présenté comme le fait d'être le dernier des réactionnaires? Est-ce que c'est l'arrogance en fait du clan progressiste?
Ce qui me choque le plus, c'est pas la proposition de loi, c'est ce qui vient de se passer. Madame, vous avez dit que des parlementaires ont changé d'avis. Beaucoup de parlementaires ont changé d'avis. Parce que le Sénat, quand on s'est manifesté, nous, les opposants, on savait que ça allait passer. Moi, je suis intervenu en hémicycle pendant 2 minutes 50. J'ai réussi à faire alimenter un débat. Je ne veux pas dire que je suis à l'origine, mais nous avons été quelques-uns à l'origine du débat qui a fait que le Sénat l'a rejeté une fois, deux fois, et va la rejeter trois fois. Comme quoi, c'est important le débat et ça peut changer. Je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on a une crise de la représentation parlementaire. Et on l'a vu avec la pauvreté des discours. Souvenez-vous d'un député macroniste qui dit qu'il faut accélérer la loi à cause de la canicule.
Oui, Rousset, qui appartient à Renaissance.
Je ne nommerai pas, mais c'est grave
aussi,
de dire ça.
Aussi, ça fait partie des noms intéressants.
Et cette crise de la représentation parlementaire, on la voit surtout à l'Assemblée nationale depuis le non-cumul des mandats. On peut être contre ou pour, mais au moins, le cumul des mandats faisait que, pour être député, il fallait passer par la case maire. Et le maire, c'est l'échelon de proximité, et on est toujours aidé par le prochain plutôt que par le lointain. Hein, et c'est celui qui dit bonjour à tous ses électeurs.
Il est dans le réel.
C'est celui qui est dans le réel. Donc maintenant, on a les deux tiers des députés n'ont jamais été élus. Ils ont été, on l'a vu avec le macronisme, hein, après François Hollande. On a eu Macron en 2011. On a eu des gens qui ont été recrutés par des emails. Et M. Delevoye a été chargé de les recruter par des emails. Donc c'est n'importe quoi. Et au Sénat, on a quand même une assemblée qui réfléchit. Et le deuxième problème, c'est le lobbying. Il y a eu le lobbying des mutuelles, parce qu'on s'est aperçu que ça allait faire 150 millions d'économies aux mutuelles par an. Le lobbying des associations dont on vous parlait, la DMD ou d'autres. Et leur aveuglement, comme monsieur le disait. Et pourquoi un aveuglement? Parce qu'ils n'ont pas connaissance de ce que c'est que la maladie, la souffrance, la déchéance. Moi, je suis médecin, je suis radiologue, je passe mon temps à essayer de dépister des cancers, à tenir la main aux gens, à annoncer la mauvaise nouvelle. Et je sais par expérience que, puisque je suis des patients, au départ, quand on trouve une maladie grave, très grave, souvent les gens sont demandeurs d'une euthanasie. Mais quand ils sont en soins palliatifs, 3% quand ils rentrent sont demandeurs de l'euthanasie, et ensuite ça diminue de 80%. Et donc, quand les gens, la fin de vie, c'est quoi? C'est dire au revoir. C'est dire au revoir. Et il faut qu'il y ait des gens qui fassent du nursing, qui tiennent la main, qui épongent... qui éponge le front, qui éponge la souffrance, qui éponge la douleur, et c'est ce que vous faites, mademoiselle, c'est très important. Et vous avez parlé tout à l'heure de souffrance. Et la souffrance, depuis Emmanuel Macron, elle ne fait qu'augmenter. On l'a vu avec les gilets jaunes. Ensuite, avec le confinement, où là, vous parliez la détresse des adolescents, des jeunes qui consultent. Écoutez, une psychologue comme Marie-Estelle Dupont, elle dit depuis le confinement, c'est terrible. Les gamins, ils sont complètement perdus. Le confinement a été dramatique pour ça. Et maintenant, la souffrance, ça va être... c'est la souffrance du peuple hein, vis-à-vis de sa non-écoute. Voilà, on rejette le peuple, vous n'avez pas raison, c'est moi qui ai raison. Et puis, souvenez-vous, pendant le premier mandat de Macron, il y avait un mouvement « Balance ton maire ». Balance ton maire. Et là, je ne dis pas « Balance ton député », mais ça sera intéressant de mettre en lumière ceux pour que les Français, parce que gouverner, c'est quoi ? La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Rien n'est respecté, parce que le peuple n'est pas écouté. Le peuple ne peut rien faire, donc ce n'est pas un gouvernement, c'est pas démocratique, c'est un gouvernement autocratique. Donc il va falloir mettre en lumière et savoir, et que les Français qui mettent le jour du vote un chèque en blanc dans l'urne, que la lumière arrive, Fiat Lux, et qu'ils sachent si qu'est-ce que leur député a voté. Moi, à chaque fois que je vote quelque chose, c'est marqué, et puis je reçois des mails de félicitations ou des mails de... J'ai jamais de mails d'insultes, mais des mails de questionnement, et je réponds. Et c'est important. Il faut que ces gens-là y répondent. Et qu'ils soient mis... Parce que le vote... C'est un acte responsable. C'est un acte responsable parce que le vote, ça fait changer le monde. Et si on fait de la politique, c'est parce qu'on aime les gens, parce qu'on aime son territoire, et c'est parce qu'on veut participer à la marche du monde. Et bien, il faut que ces gens-là qui vont nous faire avancer dans un monde qui va s'appeler le chaos, se sentent responsables. Je n'ai pas dit coupable, mais responsable. Et après, on peut faire. Donc, ma note d'optimisme, justement, c'est que ça a un peu changé. Vous voyez, au Sénat, le Sénat est redevenu raisonnable parce que c'est la haute assemblée, et puis c'est la sagesse. Et puis, il y a aussi la jeunesse. Le sénateur, ça vient de sénestre, ça veut dire vieux. Bon, je suis encore jeune et toujours jeune.
Bien sûr, monsieur le sénateur.
Mais on a vu ce que ça donne, la jeunesse. Un président de la République très jeune, on a vu ce que ça donne. Mmh. Président de la République, posez une question. Est-ce que on peut, quand on n'a pas d'enfant, penser à l'avenir ? Je pense que quand on n'a pas d'enfant, on pense qu'au présent. Et ce qu'on attend d'un homme politique, c'est qu'il pense à l'avenir. Et tous les présidents jusqu'à présent ont eu des enfants. Même le président Pompidou, qui n'en avait pas eu, en avait adopté, qui s'appelait Alain, qui était un grand défenseur, qui s'est beaucoup occupé du sida. Je pense que le fait d'avoir une famille et des enfants, bah, ça change la vie sur le monde. On est tourné vers le passé, on regarde ce qui s'est passé, puis on avance avec de plus de lumière vers l'avenir. C'est ce qui nous manque. Donc une crise de la représentation parlementaire, une crise du lobbying qui arrive maintenant dans les assemblées en France, alors qu'elle n'était que dans l'Assemblée européenne, et puis une crise de génération.
Et Elisabeth de Courrèges, dans la manière dont les soignants ont été écoutés ou pas écoutés, là aussi, avez-vous eu le sentiment qu'il y avait un véritable effort de la part de ceux qui voulaient s'informer ? Est-ce que les journalistes ont accouru à Jeanne Garnier pour voir comment fonctionnaient les unités de soins palliatifs ? Ou avez-vous eu le sentiment que c'était un peu biaisé ? Ma question est totalement biaisée elle-même, d'ailleurs, soyons francs.
Non, bah, il y a la chaîne du Sénat qui est venue récemment à Jeanne Garnier, mais bon, c'est la chaîne du Sénat. LCP et hein, France Télévisions étaient plutôt dans leur publication sur l'autre bord. Pas beaucoup de passages télévisés, mais beaucoup de passages de politique, ça oui. Et c'est là où vraiment j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, parce qu'on a dit, on a redit, ils sont venus voir, ils ont attesté. Et malgré tout, la loi nous arrive dessus comme un rouleau compresseur. Donc j'ai l'impression qu'il y a des forces en face qui sont extrêmement, je sais pas comment dire, puissantes, quoi, extrêmement influentes, parce que le constat était partagé par tous les politiques qui sont venus. Peut-être aussi que nous, soignants, on s'est mobilisés, on a dit, la SFAP a dit, mais est-ce qu'on trouve les bons canaux de communication, je me pose la question, voilà, On a essayé des écrits, on a essayé des événements professionnels, on a essayé des manifestations. Mais voilà, il aurait fallu être, à mon avis, sur tout ça à la fois. Je ne sais pas, je continue d'y réfléchir. Vous voyez, avant-hier, il y avait une manifestation à Paris et il y avait une part de soignants, mais pas non plus démesurée. Donc c'est vrai que je me dis, bon, est-ce que tous sont mobilisés? En tout cas, ce que je sais, c'est que autour de moi, tous sont contre. Donc c'est ça qui est assez troublant. Donc il y a aussi une... C'est vrai que nous, soignants, notre manière d'exprimer les choses, c'est de faire notre travail. Vous voyez, enfin, je le vois vraiment avec mes collègues qui sont pas forcément très 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 à l'aise en manifestation et qui me disaient, bah moi, ma manière de dire non, ce sera de continuer à faire mon travail, ce que je trouve hyper beau, hyper touchant et hyper instructif. Mais voilà, je trouve aussi que bah, peut-être qu'il faut qu'on trouve d'autres canaux de communication ou d'autres relais. On a essayé, il y a eu des pétitions, il y a eu des tribunes. Mais voilà, malgré tout, la loi nous arrive comme un rouleau compresseur et je ne sais pas ce que sera demain. Et vous parliez tout à l'heure de la jeunesse. Moi, je crois aussi qu'il y a une autre jeunesse justement dans cette manifestation d'avant-hier qui était extrêmement jeune quand même. Il y avait énormément de jeunes. Moi, j'ai été comme porte-parole et toute la bande d'organisateurs qui venaient me briefer sur les interventions, c'était que des jeunes. Et du coup, bah, je me dis, c'est quand même hyper... c'est aussi plein de confiance et d'espoir de voir ça, plein d'espérance. Il y a aussi une jeunesse qui dit non. Là, il y a une lettre ouverte de Marie-Lys Pélissier qui est sortie cet après-midi, qui dit, voilà, moi j'ai 24 ans et c'est pas la société que je souhaite. Et elle dit, c'est même pas qu'une histoire de soins palliatifs ou pas soins palliatifs. C'est à un moment, quelle est notre réponse face à la fragilité et à la souffrance des gens? Est-ce qu'on veut prendre soin ou abandonner? Et elle pose une question beaucoup plus large, une question de jeune qui se lance dans la société. Et je trouve ça admirable. Et voilà, je ne suis pas tellement plus vieille, mais enfin, voilà, quand même, je regarde ça avec admiration et ça me redonne vraiment espoir dans le fait que ben voilà, il y a d'autres gens qui, pour longtemps, continueront de penser autrement.
Et qui, avec un peu de chance, deviendront un jour députés. Et effectivement, tout notre étonnement vient du fait que, sous prétexte de donner un droit à mourir, on n'a pas donné de raison de vivre, comme l'ont dit plusieurs malades, en fait, en disant, vous êtes en train de nous condamner à mort, vous êtes en train d'expliquer qu'on ne sert à rien. Beaucoup de malades ont témoigné en disant, vous abandonnez les malades. Alors évidemment, Agnès Firmin-Lebaudeau dit pas du tout, cette loi est faite pour des personnes malades de maladies incurables, ce texte n'est pas du tout fait pour les personnes âgées ou handicapées, c'est une contre-vérité totale. Systématiquement, on l'a vu, et encore très récemment en Belgique, un enfant de 12 ans, de moins de 12 ans a été euthanasié.
Aux Pays-Bas.
Dans tous les pays où l'euthanasie est mise en place, il y a de plus en plus d'euthanasie, avec des cas de plus en plus élargis d'éligibilité à l'euthanasie. Je voudrais revenir sur la question que je posais à Elisabeth de Courrèges. Les AFC avaient fait un sondage, notamment pour regarder la pression médiatique et le nombre de films, de documentaires, de fictions, de débats qui avaient été organisés par les grands médias en France. Et il apparaissait que dans le comptage objectif qu'ils avaient fait, la proportion de fictions, de documentaires et de débats en faveur de l'euthanasie surpassait infiniment celle en faveur de la défense de la vie. Donc malgré tout, on peut penser qu'il y a eu un parti pris de ceux qui sont capables de fabriquer l'opinion en faveur de l'euthanasie. Non, c'était à vous que je posais la question, Ludovic. Je vous regardais fixement à cause de ça.
Alors, en fait, il y a une fabrique de l'opinion, bien évidemment. Et d'ailleurs, à propos de la manifestation qui avait lieu avant-hier à Paris, ni TF1, ni France 2, ni France 3, ni France Inter, France Info, etc. etc.
Il y avait Radio Courtoisie.
Il y a eu des médias honnêtes et qui ont couvert cet événement comme ils en auraient couvert d'autres. Mais si vous avez 30 ou 40 fémaines, militants gauchistes, etc., alors c'est une énorme médiatisation pour la moindre chose, et y compris l'AFP qui suit et qui accompagne, et donc c'est parti. Là, il n'y a eu dans les médias presque rien. C'est une honte absolue. Alors certes, la manifestation n'était pas très importante, mais je redis bien, 30 militants gauchistes, pour faire court, woke, dans la rue, et là, ou faisant le coup de poing ici ou ailleurs, là, ils sont accompagnés, ils sont même accompagnés par les médias auxquels ils donnent rendez-vous. Et on a très clairement assisté, mais comme toujours, et pour ma part, ce que je trouve affligeant, on le disait tout à l'heure, ce sont les idiots utiles. Ils ne réfléchissent même pas au fond du sujet. C'est nouveau, donc c'est bien.
le progressisme.
Et il n'y a, le progressisme, il n'y a aucune réflexion de fond. Alors, bien sûr, en arrière-plan, il y a des influences. Vous évoquiez, Elisabeth, le fait que ça nous dépassait, qu'il y a des puissances en œuvre, bien sûr. Et pour être très clair, la DMD a été créée en 1980, soit un an après la première tentative de légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, qui date de 1979. Pardon, c'était un sénateur qui s'appelle Henri Caillavé, qui était l'un des membres les plus éminents du Grand Orient de France. Et quand Yael Braun-Pivet, donc, et c'était leur, là c'est leur cinquième tentative, hein, et quand Yael Braun-Pivet, il y a quelques jours, a dit « Cessons de dire que ce texte n'est pas prêt, cela fait 40 ans, en fait 50, que nous le préparons », elle dit tout. Ce texte, il a été écrit, il a été préparé. Alors la seule chose que je dirais, c'est que là où on a une leçon à prendre, c'est qu'il persévère. Il persévère, c'est ça, ça fait 45 ans, pardon. Il persévère, c'était leur cinquième tentative. Et la première, 79, avait échoué. La deuxième, c'est à la fin du siècle dernier, elle a échoué, j'ai plus la raison en tête. Ensuite, vous avez eu 2005, la loi, ça a donné la loi Leonetti, en fait, qui a été votée très, très, très largement, mais qui finalement ne s'est pas allée jusque-là. Ensuite, vous avez eu la loi Claeys-Leonetti, 2016. Donc ça, c'est François Hollande, parce que rappelez-vous, François Hollande, il avait mis dans son programme le projet de marier et adopter les couples de même sexe, mais il avait mis aussi l'euthanasie. C'est d'ailleurs pour ça que la Manif pour tous s'appelait la Manif pour tous. C'était pour être prêt, le cas échéant, à aller sur cet autre sujet qui est celui de la fin de vie. Et en l'occurrence, à l'époque, François Hollande n'a pas osé aller réellement sur l'euthanasie à cause de la Manif pour tous. Et ça a été donc la loi Claeys-Leonetti qui allait un tout petit peu plus loin que la loi Leonetti, mais qui donc avait ouvert la sédation profonde et continue en cas de souffrance réfractaire en particulier. Mais donc, il n'avait pas franchi ce pas. Cette fois-ci, sans doute, il est possible, mais ça n'est pas encore fait, qu'il franchisse ce pas et que nous arrivions à ce basculement. Jusqu'ici, donner la mort était un crime. Demain, il se pourrait que donner la mort soit légal. En fait, c'est un basculement civilisationnel, anthropologique, et qui fera bien entendu des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers de victimes. Et il y a même aussi les victimes au-delà, c'est-à-dire qu'une famille dont l'un des membres se suicide, c'est une tragédie absolue. D'ailleurs, pour la famille, pour les proches, pour les amis, pour l'entourage social, c'est une tragédie. Or, il faut savoir que les études de suicidologie qui étudie, c'est intéressant, le suicide, y compris suicide assisté et euthanasie, c'est le même phénomène en termes de conséquences, d'implication, de traumatisme, etc. etc. L'effet a été tout à fait étudié, c'est également une tragédie. Et une tragédie sociale, si on voit le nombre de personnes touchées par un suicide, d'abord le suicide entraîne le suicide, et d'autre part le nombre de personnes touchées par un suicide et traumatisées par un suicide, cela veut dire si nous arriverons au taux de mise en œuvre belge pour la population française, cela veut dire 500 000 personnes touchées par an, ce qui génère un problème de santé publique majeur. En fait, tout cela est absolument fou, mais encore une fois, et je rejoins tout à fait ce que disait monsieur le sénateur, il y a une forme, et ce que disait aussi Grégoire Pupink, il y a une forme de suicide, de volonté suicidaire, par peur, il est vrai aussi, de la dépendance, de la déchéance. Ils sont tellement matérialistes qu'ils ne supportent pas, et hygiénistes, etc., ils ne supportent pas de changer, d'évoluer, de vieillir, éventuellement d'être malade. Ça leur est insupportable.
Il y a un côté extrêmement validiste dans cette manière de considérer que seul le corps parfait, l'esprit parfait, les conditions de vie parfaites assurent la dignité, comme s'il n'y avait pas une dignité intrinsèque. Il nous reste hélas 2 minutes. Monsieur le sénateur, en 1 minute, comment concluriez-vous ? Y a-t-il un espoir ? Quelles sont les propositions de loi à déposer ?
Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas gagné. Nous allons gagner la guerre. Faire une loi, c'est quelque chose de difficile. Souvenez-vous de Montesquieu qui disait dans ses lettres persanes, il faut faire la loi avec les mains tremblantes. Le problème, c'est que maintenant, on est dans une religion qui s'appelle le progressisme. Et le progrès, c'est peut-être le développement d'une erreur. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Et Je me pose quelques questions parce que la constitution et les constitutions de chaque pays, c'est mettre des valeurs en gras et les graver dans le marbre. Et maintenant, on est dans la diarrhée législative. C'est le médecin qui parle. Où on fait des lois, vous avez parlé de la loi Caillavet, il y a eu la loi Mattei, il y a eu la loi Leonetti, Leonetti-Claes. Tous les 6 ans, on refait des lois de bioéthique, mais les valeurs humaines, elles n'ont pas changé depuis que l'homme est homme, qu'on soit croyant que Dieu nous a fait, ou voilà. Je pense qu'on a une perte de foi en l'homme, c'est pour ça qu'on veut systématiquement le rectifier, faire une statue un peu comme en religion juive, il y a le golem, hein, le golem qui sauve, mais qui est le golem qui a des pieds d'argile. Et moi, ce que je souhaite, c'est que on retrouve ce colosse aux pieds d'argile et que ce colosse s'effondre et qu'on retrouve le bon sens.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci, Grégoire Pupin, d'avoir été avec nous. Merci, Elisabeth de Courrèges, d'avoir une fois plus porté ce témoignage. Merci, Ludovic de la Rochère, avec le syndicat de la famille, d'avoir porté le combat avec, hélas, effectivement, on l'a perdu ce coup-ci, mais la jeune génération nous donne tout à fait des raisons d'espérer. Moi, je suis vieux et donc ça me fait très plaisir qu'ils existent. Merci beaucoup à vous tous d'avoir écouté ce Restons Courtois. Vous avez rendez-vous demain avec Arthur de Vatrigan et avec moi la semaine prochaine.
Ça suffit maintenant.